Bonjour à tous. Déjà, merci pour cette invitation. C'est une invitation un peu, pour moi, qui suscite un tout petit peu d'inquiétude parce que, effectivement, je ne suis pas spécialiste des questions d'art contemporain. Donc, effectivement, le regard que je vais pouvoir apporter est un regard extérieur et qui, je l'espère, permettra aussi peut-être de trouver des éléments de décentrement, de pas de côté, qui sont toujours extrêmement fertiles pour réfléchir à un cœur de sujet. Donc j'ai le plaisir effectivement d'assurer un petit peu aujourd'hui le rôle de fil conducteur de cette journée, non seulement effectivement en l'introduisant, mais aussi en la concluant, et puis en s'attachant aussi à faire le lien effectivement entre les deux journées, hein, puisque j'ai effectivement participé à un atelier hier et j'ai eu le plaisir de réaliser de petites mains un objet en carton qui devait représenter notre quotidien et le quotidien de l'enseignant chercheur étant l'ordinateur. Je me suis efforcée de réaliser un ordinateur en carton qui a été inséré ensuite dans la performance que Céline Aoun nous a restituée de manière extrêmement brillante. L'objectif, effectivement, du séminaire est de faire dialoguer, en fait, artistes, enseignants, professionnels de l'art contemporain et en particulier de sa médiation autour donc des mises en récit comme forme de transmission. Récit, transmission, ce sont deux termes que revendiquent aussi bien les artistes, les enseignants que les médiateurs. Récit et transmission, ce sont, me semble-t-il, ça a également été un petit peu rappelé par Jean-Jacques à l'instant, sont deux composants d'une forme d'être ensemble, mais aussi de ce qui permet de faire société, c'est-à-dire de faire ensemble. Donc deux éléments, me semble-t-il, fondateurs d'une forme de construction citoyenne, même si certains secteurs, je vais en le développer, en font parfois un usage davantage mercantile. Et donc, tout d'abord, j'avais envie de revenir un petit peu sur le contexte et sur la place aujourd'hui que prend le récit. Et quand on m'a proposé d'intervenir dans cette journée, récit, voilà, je me suis posé une minute. Qu'est-ce que ça m'évoque aujourd'hui, le récit ? À quelle occasion, finalement, on utilise ce terme ou ces procédures narratives ? Et il me semble effectivement que l'on fait de plus en plus appel à des procédures narratives et que le récit, en tant que tel, a aujourd'hui le vent en poupe, malgré effectivement ces années déceptives de fin du récit, mais aussi de la fin de l'histoire. Et il suffit juste de manière très anecdotique de penser au succès tout de même des séries qui deviennent aujourd'hui des objets d'ailleurs d'études. Il y avait une journée d'études là-dessus dernièrement à mon université. Mais aussi, surtout, ce qu'évoquait le terme de récit, ce sont les usages que l'on peut avoir et que l'on peut faire dans le cadre du storytelling, donc d'une forme de méthode quand même de communication qui se développe aussi bien dans le secteur du marketing, de la gestion d'entreprise, mais aussi celui de la communication politique. Il s'agit finalement de renforcer un petit peu l'adhésion des consommateurs, des salariés ou des électeurs à un discours en leur racontant une histoire, en mettant au récit une marque, un esprit d'entreprise, tout ça entre des guillemets, hein, un changement managérial ou un projet politique. Et il s'agit certes d'inventer une histoire qui puisse posséder un pouvoir donc de séduction, d'attraction, suffisamment puissant pour générer une adhésion. Il s'agit surtout, me semble-t-il, de capter l'attention des individus dans une société marquée tout de même par la suroccupation dont nous sommes tous victimes, la sursollicitation qui sont favorisées bien sûr par les usages du numérique depuis l'avènement de l'Internet. Et c'est dans ce cadre de cette économie de l'attention, où il s'agit de capter une ressource qui est de plus en plus rare, dirait-on, hein, et une ressource qui se trouve non pas du côté de la production, mais du côté de la réception, que se développent et que fonctionnent dans les usages les techniques du storytelling. Et effectivement, si cette méthode s'inspire largement d'un schéma narratif traditionnel, donc exprimé de manière linéaire, avec des péripéties ou une solution finale. Le récit, pourtant, a connu bien des mutations et des remises en cause qui sont le propre, peut-être, de nos disciplines et des disciplines artistiques en général. En matière d'art contemporain, si le récit est plutôt associé historiquement à la littérature, au théâtre, bien sûr, ou au cinéma, la question du récit apparaît plutôt, d'après ce que je peux, moi, d'un regard extérieur, en saisir, avec les avant-gardes du début du XXe siècle, et il se répand d'autant plus avec le développement d'un art conceptuel qui met finalement davantage en avant une démarche que l'œuvre achevée, qu'une œuvre finie. L'art performantiel recourt largement au récit, mais plus d'ailleurs pour garder trace de cet événement, d'un événement par essence éphémère. Et on verra tout au long de la journée que le récit forme également une réponse à la constitution d'une mémoire, qu'elle soit individuelle ou collective, voire d'une archive. Mais aussi parce que on a eu recours au récit, notamment donc dans l'art performantiel, parce qu'il intègre l'artiste au cœur du processus, conduisant souvent donc à une mise en œuvre de récits qui peuvent d'ailleurs être des récits biographiques ou autofictionnels. De même, les démarches intermédiatiques qui font intervenir donc textes, sons, installations, images animées, dispositifs numériques, interactifs, performances, etc., requestionnent la structure narrative en opérant la plupart du temps un éclatement, ce qu'on peut travailler sous l'intitulé d'une esthétique du fragment aussi. Et c'est d'ailleurs à cet endroit-là que se rejoignent assez souvent l'art contemporain et le théâtre, qui connaissent quand même l'un et l'autre, ou qui ont connu une remise en cause de l'approche linéaire du récit et d'un mode d'analyse de la structure narrative. Bref, le récit, tel qu'il se pratique aujourd'hui, oscille entre éclatement, recomposition. Mais pour bien saisir un petit peu les enjeux de cette journée, il convient, me semble-t-il, de distinguer différents niveaux des usages du récit qui s'articuleront et qui se sont articulés sur les deux jours du séminaire. Premièrement, le récit, l'activation du récit au sein de l'œuvre elle-même. Deuxièmement, les œuvres comme support de récit, comme objet même de récit, que ce soit dans des commentaires, dans le cadre de commentaires, de critiques, d'historiens, d'enseignants, de médiateurs. Et enfin, le récit comme lieu de construction, d'un partage d'expériences, d'un partage d'événements vécus ensemble, donc support à une narration collective. Certains d'entre nous donc, ont pu expérimenter hier, à l'occasion de 3 workshops, ces différentes dimensions du récit. Et effectivement, à partir de l'univers de chacune des artistes qui nous étaient proposés, ont été élaborés des objets, des situations, voire des performances qui racontaient quelque chose. Racontaient donc un quotidien professionnel, une fiction inscrite dans un contexte historique situé, un texte littéraire racontant lui-même un événement historique qui était à partir de l'insurgé de Valèves, donc sur la commune. Et nous avons été en fait placés aussi, confrontés aux différentes mises en abîme que permet le récit, en particulier quand il s'épanouit sur différents supports. Nous avons alors traversé des questions qu'on va retrouver, j'imagine, aujourd'hui, de récits intimes, de récits collectifs, de leur intrication, de mémoire collective, d'écriture d'une histoire, donc d'absence de traces, d'absence de récits, de mémoire cachée, de lien entre récits fictionnels et récits historiques. Nous avons également interrogé la performativité du récit, le lien entre la forme et le fond, et je ne résiste pas au plaisir de vous reciter un des slogans qu'utilisait Céline Aon, « À fond la forme », ça doit vous rappeler un slogan publicitaire d'un tout autre domaine, hein. Mais voilà le lien qui s'établit quand on raconte entre le contenu du récit et la forme. Et donc nous avons également expérimenté le rôle des supports et des médias dans la mise en récit, que ce soit donc à travers un objet en carton, une image fixe, une parole, un son, des images animées, un texte et, bien sûr, le corps. Le récit s'incarne à travers ces différents médias de manière plus ou moins forte, se médiatise selon des modalités, bien sûr, différentes. Enfin, le temps de restitution de ces trois ateliers a été aussi l'occasion de se rendre compte de l'efficacité du récit, de l'efficacité de l'adresse pour mettre en commun, pour partager une expérience sensible et donc aussi lui donner sens et que ce sens permette de le transmettre, de faire une expérience commune au sein de cette transmission et de cette médiation. Bref, une journée joyeuse, libre, qui a permis de préparer par le sensible la réflexion que nous mènerons ensemble aujourd'hui. Pour poursuivre cette exploration des différentes strates du récit, je vous signale d'ailleurs que certaines personnes qui ont assisté à la journée d'hier portent un badge et se feront donc un plaisir elles-mêmes de vous raconter ce qu'elles ont vécu hier. Enfin, je souhaiterais donc introduire plus précisément cette journée, puisqu'effectivement, on l'a vu à l'instant, la question du récit traverse aussi bien les domaines artistiques que les secteurs économiques, organisationnels, managériaux. Mais ce qui nous rassemble aujourd'hui, plus spécifiquement, ce sont les enjeux donc de médiation et de transmission. En effet, les enseignants, les artistes, les professionnels de la médiation, je l'ai déjà dit, pratiquent le récit dans leur démarche de transmission. Et donc, cette journée d'études a pour objectif d'apporter des éclairages théoriques sur ces pratiques, mais en convoquant différentes approches, des approches esthétiques, des approches des sciences de l'éducation, mais surtout aussi et surtout en laissant place à des témoignages et à des retours d'expérience. Puisqu'effectivement, le choix de cette thématique, le récit, renvoie à un postulat, l'intérêt du récit dans les démarches de médiation et de transmission. Et j'aimerais bien, dans ces quelques minutes, interroger ce postulat d'un intérêt donc du récit dans des démarches de transmission et de médiation. Et donc, je vous propose peut-être de formuler une problématique qui puisse se développer grâce à nos échanges, grâce aussi aux interventions qui vont nous nourrir, et évidemment que j'essaierai de revoir, de reconvoquer à l'issue de la journée. Pour essayer d'éclairer donc les raisons qui conduisent à l'utilisation du récit dans des situations de transmission, de médiation, bien sûr, il faut revenir aux travaux de Paul Ricoeur. Puisque dans ces trois volumes, ardus tout de même, mais trois volumes essentiels pour comprendre ce lien entre le récit et le temps, il interroge donc la configuration de l'expérience temporelle à travers l'acte narratif. Et il nous donne des clés pour comprendre l'intérêt du récit. En considérant donc la mimésis, que Ricoeur apparente alors à une mise en intrigue, comme une structuration de l'expérience du temps, Ricoeur montre les liens entre la discipline historique et le récit qu'il entend, lui, d'un point de vue littéraire. Pour Paul Ricoeur, le récit, qu'il définit aussi bien comme un acte de parole ou un acte d'écriture, qu'il soit fictionnel ou pas, permet d'ordonner, de donner un sens à une suite d'événements qui, sans ce récit, apparaîtraient chaotiques. La mimésis permet donc, je le cite, de faire une synthèse de l'hétérogène, en facilitant, par le sujet percevant, par nous, l'appréhension du temps. Et cette appréhension s'effectue chez Ricoeur en trois temps. Préfiguration, configuration, refiguration. Préfiguration, le sujet appréhende les événements, le monde temporel qui se déroule dans une forme de globalité. Deuxième étape, une configuration, le sujet, à partir de cette appréhension, fabrique un récit, c'est-à-dire une configuration narrative et temporelle de son expérience. Troisième temps, la refiguration, quand l'expérience racontée, écrite et donc configurée, trouve un écho chez un lecteur ou un récepteur potentiel. Et c'est ce troisième temps, bien sûr, qui est intéressant dans la médiation, puisqu'en effet, la refiguration permet d'enclencher un nouveau cycle de configuration narrative. Il permet donc la transmission. Au final, pour Ricoeur, donc, le récit n'a d'autre fonction que d'être refiguré par le lecteur. Et si l'on examine ce concept au regard des enjeux de médiation et de la transmission des œuvres, des artefacts artistiques, et il me semble d'ailleurs au cours de nos échanges d'envisager les similitudes, mais aussi les différences entre médiation et transmission, on peut faire l'hypothèse que la refiguration qu'offre le récit peut permettre de prolonger la rencontre avec ces artefacts, avec ces œuvres et leurs destinataires. Donc, prolonger la rencontre au-delà donc d'une simple réception. Et c'est alors que l'on peut peut-être faire intervenir la notion d'appropriation, qui est une notion qui est extrêmement sollicitée dans les situations de médiation, un terme qu'on utilise beaucoup, et qui s'appuie sur des recherches donc en psychologie sociale de l'environnement de Fischer, qui est enseignant à Metz, et que je vais citer. C'est un peu long, pardonnez-moi, mais autant nommer précisément les choses. L'appropriation, donc, est un processus psychologique fondamental d'action et d'interaction sur un espace pour le transformer et le personnaliser. Ce système d'emprise sur les lieux englobe les formes et les types d'interventions sur l'espace qui se traduisent en relations de possession et d'attachement. Au niveau individuel, l'appropriation est ainsi considérée comme le fait de faire sien quelque chose. Cette notion, donc développée plutôt dans le cadre soit de la géographie, soit donc de la psychologie sociale, a également été reprise par deux chercheurs qui l'ont adoptée au comportement du consommateur, et notamment à celui de consommateur de musique. Donc, il s'agit des travaux d'Antonella Carou et de Bernard Kova. Une des spécificités de l'appropriation, explique-t-il, qui s'inscrit d'ailleurs en cela dans les objectifs qui sont visés par la médiation culturelle, influencée par le double mouvement de l'éducation populaire, mais aussi aujourd'hui des droits culturels, tient dans l'attention qui est portée au destinataire, dans l'attention qui est portée au récepteur, de ce qu'il va faire de cet échange, plus finalement que dans l'intentionnalité de l'émetteur, dans le cas donc qui nous intéresse aujourd'hui, dans l'intentionnalité de l'artiste. L'appropriation, pour que développent Carou et Kova, dépend de l'histoire de la personne, de sa construction sociale, de son capital culturel, pourrait-on dire. Et donc, l'appropriation est extrêmement individuelle, extrêmement personnelle. Et c'est ce qui fait, explique-t-il, que la personne se situe ensuite et garde en elle l'expérience qu'elle a pu traverser à travers cette rencontre avec une œuvre. Bref, ce détour théorique permet peut-être de vous proposer une hypothèse, donc que les échanges, que les interventions permettront peut-être de confirmer, mais aussi d'infirmer. Dans les situations de transmission et de médiation, le récit, grâce aux effets donc de refiguration, permet une appropriation par le destinataire et favorise en cela une relation approfondie, longue, et je reprends l'idée d'Emmanuel Etis en clôture de son intervention, une relation approfondie, longue, entre l'œuvre et le destinataire. Donc avant de laisser la parole à la première intervenante, à Magali Nachtergal, je souhaiterais vous présenter la structure de la journée qui, comme je l'annonçais, donc articule intervention théorique, témoignage et table ronde. Donc cette matinée sera consacrée à deux interventions, deux points de vue disciplinaires, une approche esthétique qui évoquera donc la première notion associée au récit, telle que je l'évoquais au début de mon intervention, à savoir le récit, l'activation du récit au sein des œuvres elles-mêmes. Et l'approche issue des sciences de l'éducation s'intéressera davantage aux usages du récit, en l'occurrence ici, dans l'expérience de l'élève. L'après-midi donc commencera par deux témoignages illustrant de fait les différentes strates de la médiation, puisqu'on écoutera le témoignage d'une commissaire d'exposition, critique d'art, et puis ensuite le témoignage d'une responsable du service des publics. Nous poursuivrons donc par une table ronde offrant un retour d'expérience croisée sur un projet d'éducation artistique et culturelle qui a traversé donc la question du récit. Et donc les principaux partenaires du récit seront présents pour illustrer parfaitement l'idée, bien sûr, des démarches d'EAC, à savoir les artistes, la médiatrice et l'enseignant. Et il sera alors, j'imagine, fort intéressant de percevoir les différents points de vue et les différentes places que l'on occupe au sein d'un projet d'EAC. Et donc, je vous proposerai une brève synthèse des échanges en fin de journée. N'hésitez pas non plus à utiliser les temps d'échange qui ont été prévus dans le programme pour poursuivre la discussion, pour nourrir ces questionnements. Et donc, je vais laisser peut-être maintenant la parole à Magali Nachtergal. Je ne sais pas où elle est. Voilà, si tu veux bien venir. Donc, en quelques mots, pour présenter ma collègue, qui est maîtresse. Faut s'y faire. J'ai encore un peu de mal, et pourtant j'adhère bien sûr à cette féminisation. Mais voilà, maîtresse de conférence, j'ai toujours, excusez-moi, un petit peu de mal. Donc maîtresse de conférence en littérature et art contemporain à l'université de Paris 13, mais qui est aussi commissaire d'exposition et critique d'art, et qui a publié en 2015 un ouvrage qui s'intitule Roland Barthes contemporain, et elle a terminé un ouvrage donc sur les interactions entre création poétique et technologie moderne. Voilà, je vous laisse la parole.